Donc ce soir, vous pouvez remarquer, on est plein. Comme je vous avais dit dans les mails, on est beaucoup de cordes. Même si c'est moi le grand gagnant, je déplore, mais voilà, c'est pas le même genre de cordes du tout. On va continuer donc notre répertoire autour de la musique française, fin 19e, début 20e, avec. Toujours un peu les mêmes artistes. Maintenant, ceux qui sont venus régulièrement, vous commencez à avoir un petit peu fait le tour, à les connaître un tout petit peu. On va commencer justement, pas par le quatuor, mais par des pièces en duo, piano et piano, violon, violoncelle, alto, pour entendre aussi les instruments. Et en fait, d'habitude, je termine les concerts en présentant un petit peu le concert suivant, enfin, un petit morceau qui démarre déjà le concert suivant. Là, ce soir, je fais un peu le contraire. C'est-à-dire que le dernier concert, c'était sur la mélodie française. Et là, aujourd'hui, on va commencer par la mélodie française, mais jouer aux instruments. Alors, ce qui est un peu en contradiction avec ce que je vous avais dit la dernière fois, c'est-à-dire qu'une des caractéristiques de la mélodie française de cette époque-là, c'était l'importance donnée au texte. Hein, c'est un peu ce qui s'est passé, en fait, le passage de la romance à la mélodie, où les musiciens ont commencé à attacher, à prendre des textes des poètes de l'époque. Bon, c'est quand même une époque des grands, grands poètes, enfin, même s'il y en avait d'autres avant, hein, mais des Baudelaire, des Rimbaud, des Verlaine, des Mallarmé, enfin, vraiment, il y a de quoi faire. Donc, ils ont puisé là-dedans. Mais, justement, c'est ça qui est intéressant de voir en les reprenant avec des instruments, c'est que c'est aussi de la musique pure. Et ça a été aussi un des changements, on en reparlera dans le cours de la soirée, de cette période de fin 19e siècle. C'est-à-dire que ça a été une époque où l'opéra, l'opérette avait beaucoup d'importance. En fait, tout le monde ne jurait que par ça, notamment par les Italiens et les Allemands. Et ce qu'ont amené les compositeurs français de cette époque-là, c'est de ressortir la musique pour la musique. Et justement, c'est ce qu'on va voir en écoutant certaines des mélodies écrites, mais jouées par des instruments. Alors, on va commencer par un des maîtres, mais il y en a plusieurs, hein, c'est pas péjoratif pour les autres, de la mélodie française, Gabriel Fauré, donc, qui a écrit énormément de mélodies, qu'on a tellement écrit qu'il y a même ses confrères qui lui ont dit à un moment, mais tu écris tellement bien que tu ne pourrais faire que ça. Il ne savait pas trop comment il devait le prendre, dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Et là, on va commencer par une mélodie qui date de 1877, qui s'appelle « Après un rêve », qui est vraiment une mélodie qui est très, très connue. Vous allez voir, la mélodie est très belle. C'est aussi pour ça qu'elle est reprise vraiment à toutes les sauces. Tous les instruments l'ont joué. Et là, ce soir, on va la faire au violoncelle. Thank you. Alors, Pablo Casals a fait une transcription aussi de cette mélodie que j'ai pas reprise parce que en fait, je voulais entendre aussi le violoncelle dans ses graves. Lui, il a fait une transcription qu'il utilise beaucoup dans son registre aigu. Et là, voilà, ce que j'aime aussi dans le violoncelle, c'est cette partie très chaude, très... Alors là, on arrive complètement à l'opposé avec le violon. Complètement à l'autre instrument, beaucoup plus petit déjà, moins gros. Avec un autre forêt qu'il a écrit 10 ans après, et vous allez voir, l'écriture est totalement différente. C'est-à-dire que là, dans Après un rêve, on a une écriture qui est encore très classique avec un accompagnement de piano qui est un accompagnement. Hein, qui est là pour faire mousser la chanteuse ou la violoncelliste. Hein, mais là, dans le clair de lune, on a vraiment une attitude très très différente, c'est-à-dire que c'est presque la partie de piano qui est plus importante et le deuxième instrument de la voix qui est à contre-champ. Ah ben d'accord, déjà... Mais néanmoins, ça reste quand même une mélodie, donc malgré tout, le piano est obligé de s'effacer. Hein, on est toujours caché, c'est pour ça que je suis derrière. Hein. Alors, le clair de lune, vous allez voir aussi, clair de lune, c'est un thème que beaucoup de compositeurs ont été inspirés par ça. Bon, je ne parle même pas de Beethoven et de la fameuse sonate de clair de lune. Il y a Debussy aussi qui a écrit un clair de lune... Dans la suite Bergamasque, hein, je vous avais joué il y a un certain temps le prélude de la suite Bergamasque, qui est d'ailleurs dans la même tonalité que le clair de lune ici, mais qui est dans un univers vraiment, je dirais, clair de lunesque, c'est-à-dire très rêveur. Hein, alors que ce clair de lune de Forêt, déjà c'est un menuet, enfin lui il appelle un menuet, donc c'est-à-dire que c'est déjà un peu une danse, et vous allez voir la partie de piano. Est relativement entraînante. Ça reste quand même un clair de lune, quelque chose de paisible. Hein,
thank you.
avec une autre mélodie, avec un autre violon. Alors, en fait, c'est lui qui a choisi cette mélodie-là. Et c'est ça qui m'a donné l'idée, justement, de choisir des mélodies pour les duos. Parce que celle-là aussi, vous allez voir, elle est... Alors, là, c'est une mélodie de Debussy, hein, qui a aussi tout plusieurs styles de mélodies qui sont assez magnifiques. Et là, le violon est vraiment traité d'une manière très, très différente. Pour son timbre, hein, et Debussy a beaucoup travaillé sur le timbre du piano, hein, il était pianiste, il a fait énormément avancer l'écriture pianistique. Ça, on en reparlera beaucoup au prochain concert, parce que le prochain concert, c'est vraiment sur l'instrument, le piano, et la manière, l'évolution de l'écriture du piano. Donc on passera par différentes étapes, et ça vous garde ça pour le moment. Mais là, on a déjà un aperçu de ce vocabulaire et de cette manière de traiter le piano. Alors, c'est Beaussoir, ça a été écrit en 77, c'est-à-dire à la même époque qu'Après un rêve de Fauré. Donc, Debussy était très jeune et à cette époque-là, il avait, je crois, une quinzaine d'années, donc c'était vraiment ses tout débuts. Il a, du coup, dans Beaussoir, on a quand même cet univers de fin de 19e siècle, des années 75, justement, juste après la Commune. Et on a quand même aussi, on reconnaît l'univers de Debussy, c'est-à-dire qu'il a tout de suite déjà une patte. Hein, et quand vous avez joué aussi la suite d'Argamas, que c'est pareil, c'est des œuvres qu'il a écrit assez tôt, et où on entend déjà le Debussy, il a tout de suite un son particulier bien à lui. Donc, Beaussoir. Voilà. petit peu triche parce qu'il met ce qu'on appelle une sourde qui change le timbre de l'instrument, mais d'un violoniste à l'autre aussi, on n'a pas le même son. Les instruments ne sont pas les mêmes, donc les instruments ne sont pas pareils. L'archet est aussi très important dans la sonorité de l'instrument. Et puis la personne qui en joue, heureusement, a quand même une importance assez fondamentale. Alors, on va continuer avec une mélodie au piano, parce que bon, il n'y a pas de raison aussi. le piano, alors la grosse différence, l'une des différences entre le piano et les cordes, c'est que le piano donc, est un instrument à cordes frappées. Vous connaissez le principe, on tape dessus au lieu de les frotter avec un archet. Donc, ce qui fait qu'il est plutôt rangé dans la catégorie des percussions. Mais néanmoins, ça reste aussi un instrument mélodique. Je vais vous jouer un petit morceau de Ravel qui n'est pas une mélodie. Ravel, parce qu'on y reviendra tout à l'heure, ils vont nous jouer un mouvement d'un quatuor de Ravel. Ravel, parce qu'aussi, c'est quand même le confrère de Debussy. Il y a eu plein de polémiques entre les deux, comme quoi il y avait un aîné et un autre. C'est deux personnes différentes, deux personnalités différentes, qui se connaissaient, qui s'estimaient, qui ont produit des œuvres très différentes aussi. Ravel a très tôt, dès ses premiers morceaux, le quatuor qu'on entendra tout à l'heure, il l'a écrit très très jeune. C'est magnifique, c'est du Ravel. Je vous en parlerai un peu plus tout à l'heure, parce que je ne vais pas tout dévoiler tout de suite. Mais Ravel a aussi eu beaucoup cette image de laborieux, d'intellectuel. C'est-à-dire c'est quelqu'un pour qui la sensibilité était fondamentale, mais la sensibilité sans le travail, ça ne servait à rien. Et donc c'était un technicien, c'était un grand orchestrateur, il a beaucoup orchestré d'œuvres pour piano, et vice-versa. D'ailleurs, il a aussi transcrit des œuvres orchestrales pour le piano. Et donc il a beaucoup perfectionné sa technique, mais c'était aussi un vrai musicien. Donc ce que je vais vous jouer, c'est le début du deuxième mouvement du concerto de Ravel, qui est une mélodie. Ce concerto était dédié à Marguerite Long, et Marguerite Long lui disait, ce deuxième mouvement, il a une mélodie, une phrase qui coule. Et lui, il a dit, la phrase qui coule, je l'ai faite deux mesures par deux mesures et j'ai failli en crever. Ce qui veut dire qu'il a vraiment, c'est pas, ça ne sort pas d'un geste, c'est quelque chose qui travaille. Et en même temps, vous allez entendre, c'est une mélodie, elle est d'une simplicité, elle est... Enfin voilà, moi je la trouve magnifique, j'espère que vous aussi. Thank you. solo, surtout pour la découverte de l'alto, parce que c'est vrai que le violoncelle, on connaît, il y a des grands solistes de violoncelle, Rostropovitch et Kazak, déjà, il y a de quoi faire. Un répertoire magnifique au violoncelle aussi, hein, c'est, les violons, on n'en parle pas, les violonistes virtuoses, les concertos, il y en a toutes les choses. L'alto, c'est un peu considéré comme le parent pauvre. Il y a plein de blagues qui circulent sur les altos et tout ça. Et voilà. Et moi, je trouve ça très dommage parce que je trouve que c'est vraiment un instrument magnifique. C'est-à-dire qu'à la fois, il a la finesse du violon, il peut galoper, il peut partir dans les aigus, il peut jouer très finement. Il a ce timbre un peu plus chaud, plus chaleureux du violoncelle, sans aller jusqu'au violoncelle, parce que là, il y a une histoire. N'exagérons rien. Mais d'ailleurs, à l'origine, il existait beaucoup plus de violons que ça. C'est-à-dire qu'il y avait un violon piccolo qui était accordé un peu plus haut, encore un peu au-dessus du violon de nos jours. Après, bon, il y a le violon, il y a donc l'alto qui est accordé une quinte en dessous. Après, on passe au violoncelle qui est carrément une octave en dessous. Et entre les deux, avant, il y avait un violon ténor qui était accordé une quinte en dessous de l'alto. Et le soprano et le ténor ont eu une vie assez courte malgré tout. Hein, le quatuor est quand même... c'est pour ça que je voulais faire un concert avec un quatuor. Pour moi, c'est une des formations idéales de la musique de chambre. Voilà, un regroupement, surtout avec un piano, mais quand même, c'est vraiment... Et donc l'alto, je trouve que c'est un instrument qui a une chaleur et qui ne demande qu'à être connu. Alors, on va vous jouer, cette fois, ce n'est pas une mélodie, c'est une berceuse de Germaine Taillefer, dont je vous ai déjà un petit peu parlé, qui elle a donc couvert... tout le siècle. Cette berceuse, d'ailleurs, je ne sais plus exactement de quand elle date. Si, 1913, donc elle est quand même bien plus récente. Mais c'est vrai que Taillefer étant née à la fin du 19e et étant morte dans les années 80 du 20e siècle, elle a vraiment été très très loin. À l'origine, cette berceuse est écrite pour violon et piano, mais vous allez voir, moi je trouve ça encore plus beau avec elle. Thank you. s'installer parce qu'on va passer à la partie où tout le monde se concentre. C'est bien beau de jouer. Quand on avait commencé le site, enfin, je dis on parce qu'il y a quand même pas mal d'entre vous qui sont diversifiés et qui ont écouté les concerts, une des choses que je voulais essayer de faire sortir, c'était pourquoi on pouvait parler de musique française. Qu'est-ce que ça voulait dire ? Est-ce que ça a vraiment un sens de parler de musique française ? Ça a eu un sens historique parce que la période d'après la Commune, donc à partir de 1870, ça a été un renouveau de la musique en France, des compositeurs en France. Alors qu'avant, c'était quand même plus du côté de l'Allemagne ou de l'Italie qu'il y avait des grands compositeurs. Donc il y a eu ce côté-là. Mais il y a aussi un mode de pensée, donc un mode d'écrire la musique, alors qui est aussi lié, qui est historique aussi, hein, puisque on en a déjà un petit peu parlé, c'est-à-dire que ce qui se passe dans la société, forcément, ça rejaillit aussi sur les compositeurs et sur leur manière d'écrire. Le statut du compositeur aussi, le fait qu'au début, c'était les compositeurs de cour qui ne jouaient que pour les cours, qui étaient dépendants de ces gens qui les nourrissaient, hein, et donc qui leur demandaient aussi un certain type de répertoire, et que petit à petit, avec les droits d'auteur, avec les éditeurs aussi, le fait qu'ils puissent gagner de l'argent en vendant leur musique un peu partout, ça leur a donné une liberté d'expression très différente. Mais aussi, ce qui est important, c'est d'essayer d'entendre des choses. Donc, c'est pour ça que je leur ai demandé de jouer un quatuor allemand, ce concert de musique française. un petit bout d'un quatuor de Schumann. Alors, c'est un peu biaisé parce que Schumann, c'est quand même une cinquantaine d'années avant. Hein, donc, il y a aussi un vocabulaire différent, un mode d'écriture qui est très différent. Vous allez entendre dans les sons, dans la manière de jouer, de combiner les instruments ensemble, le rôle des instruments aussi est différent dans ce Schumann et dans le Ravel qu'on entendra après. Donc je les laisse. Donc là c'est le scherzo, c'est le premier quatuor ou le deuxième, je ne sais plus. Premier. Thank you. on va donc continuer avec un futur qui est le jour et la nuit. D'ailleurs, même pour eux, c'est voilà, changer les cases, partir ailleurs. Donc, le Quatuor de Ravel, Quatuor de Ravel qu'il a écrit très très jeune, ce qui est assez rare parce qu'en général, les compositeurs attendent d'avoir un peu mûri la question. C'est une très très belle forme, le Quatuor à cordes, mais c'est aussi quelque chose de compliqué au niveau de la composition. Du fait qu'il y a ces 15 instruments qui sont indépendants aussi et qu'il faut souder ensemble. La plupart des compositeurs attendent en général, commencent à écrire des quatuors à la quarantaine. Ravel, lui, voilà, il s'est lancé à 20 ans. En fait, c'était plus ou moins suite, pas un pari, mais il était donc dans la classe de composition de Gabriel Fauré, qui était au Conservatoire de Paris. Et les élèves avaient décidé, en cadeau de fin d'année, de lui écrire chacun un petit mouvement de quatuor, comme ça, pour le plaisir et lui faire un cadeau. Et en fait, Ravel, il s'est tellement pris au jeu que lui, il a écrit un quatuor entier. Et non seulement il a écrit un quatuor entier, mais un quatuor qui est assez remarquable. Alors, on aurait eu le temps, on aurait fait le quatuor de Debussy aussi, avec qui il est assez souvent apparenté, qui a été écrit une dizaine d'années avant. Alors, ça ne veut pas dire que Ravel s'est inspiré du quatuor de Debussy, ça veut dire que c'était dans l'air du temps aussi des choses qui évoluent. Mais du coup, voilà, pour ce soir, on va sur Ravel, parce que là, après, on passera encore à un autre compositeur. On reviendra un petit peu en arrière, d'ailleurs. Qu'est-ce que je voulais vous dire sur Ravel? Ben, c'est à peu près tout, parce que on va les écouter. Donc, ils vont nous jouer le premier mouvement. C'est pareil, c'est intéressant de les écouter en entier, parce qu'il y a des éléments qui naviguent d'un mouvement à l'autre. Ravel a choisi une forme très classique, alors que d'habitude, il part un peu à tout va. Enfin, justement, il ne choisit pas des formes classiques. Là, il est parti sur une forme assez classique en quatre mouvements. Et donc c'est intéressant d'écouter les quatre mouvements. Mais là, on va déjà écouter le premier mouvement, Allegro moderato.
Thank you.
générateur, c'est-à-dire qui utilise plein de possibilités sonores différentes sur chaque instrument, que ce soit au niveau du timbre lui-même, des pleats aussi, après c'est quand il joue sans l'archet, que même du rôle des instruments, c'est-à-dire que ce n'est pas toujours le premier violon qui fait le thème et puis les autres qui font le thème derrière. c'est vraiment une réinvention totale. Alors, le dernier qu'on va vous jouer, donc c'est un quintet qu'on va jouer ensemble tous les cinq. Il est écrit par quelqu'un qui est un petit peu un ovni de la musique du 19e siècle, enfin pour moi, c'est César Franck. César Franck, bon, déjà, il nous vient de Belgique. Mais bon, il a vécu peut-être un peu. En plus, il avait lui-même des parents, des ascendances qui étaient autrichiennes, allemandes. Donc c'est déjà quelqu'un de cosmopolite, qui a une culture déjà cosmopolite, hein, qui a pioché un peu à droite à gauche, qui est venu s'installer en France. Alors son père voulait en faire un virtuose, voilà, pourquoi pas, mais bon, son père avait un peu des rêves de grandeur, voulait gagner des sous en fait. Donc il a fait beaucoup travailler. Il l'a fait travailler, d'ailleurs, je vous en ai parlé de ce pianiste Timmerman, quand je vous ai parlé de l'Ave Maria de Gounod, parce que c'était le beau-père de Gounod, Timmerman, qui était un grand pianiste de l'époque, et c'était, Gounod avait donc fait, je rappelle pour ceux qui n'étaient pas là ce jour-là, avait fait une improvisation sur le prélude de Bach, et son beau-père, donc Timmerman, le pianiste, a trouvé ça tellement beau qu'il lui a demandé de la rejouer pour la noter, et de là est née l'Ave Maria. Et donc, Franck a pris ses premiers cours de piano avec ce fameux... voilà, bon, ça c'était pour l'anecdote, pas ça, c'est important. Juste pour dire aussi que tout le monde est lié dans ces mondes-là. Ça, on a déjà vu qu'ils se côtoyaient, ils échangeaient, ils faisaient des concerts ensemble, ils faisaient des soirées, des fêtes ensemble aussi, où ils se montraient chacun ce qu'ils avaient écrit, donc ils s'enrichissaient. Chacun mutuellement, et pas forcément que dans les salons bourgeois. Les salons bourgeois, c'est quand même beaucoup l'époque au 19e siècle. Ça a continué au début du 20e siècle, ne serait-ce que parce que c'était des gens qui avaient de l'argent, qui pouvaient commander des œuvres aux compositeurs, donc qui les aidaient à vivre. Mais les compositeurs, entre eux, notamment à Montmartre, parce qu'on en revient quand même au thème principal, ce pourquoi on a choisi ce thème-là. Avec Satie, un petit peu en point d'ancrage, puisque l'an dernier c'était un peu l'année Satie. Mais tous ces gens qui ont vécu aussi autour de Montmartre, qui a une vie artistique très forte. Franck, donc, c'est bien avant, puisque lui il est né dans les années 20 du 19e, 1820, il est mort en 88, je crois, par là. Donc il a couru le. Mais il a été le renouveau d'une musique française, c'est-à-dire que, comme je vous disais tout à l'heure, à l'époque, la musique en France et je pense pas mal en Europe, c'était la voix, c'est-à-dire l'opéra, l'opérette. C'était d'ailleurs assez, mais depuis un certain temps, ce qu'on appelait entre guillemets les gens du peuple, ils connaissaient les airs d'opéra, ils s'en servaient d'ailleurs, ils réécrivaient des paroles dessus, souvent des paroles un peu contestataires, mais aussi d'autres choses, et ils reprenaient ces airs d'opéra, ils les chantaient avec des textes à eux. Franck, ce qu'il a amené, c'est qu'il a recommencé à remettre au goût du jour la musique instrumentale. Lui, il a écrit, c'est ce qui captivait. Vous vous souvenez peut-être, quand le quatuor de saxophone est venu, on a joué une de ses seules œuvres d'opéra, c'est Epimeda, un opéra qui n'a pas eu beaucoup de succès. Mais donc, avec la chorale, on a chanté un petit bout avec le quatuor de saxophone, qui est écrit d'ailleurs pour le quatuor de saxophone, ce n'était pas une transcription, là, c'est lui, justement, le saxophone qui était un instrument qui venait de naître à cette époque-là, il a écrit pour ça. C'était donc quelqu'un d'assez novateur, qui cherchait, qui était très pédagogue. Il y a eu une école Franck, il a eu des disciples. Bon, après, son discours a été un peu perverti. Après, il y a eu des luttes intestines entre Vincent d'Indy, qui sont restées dans un certain classicisme. Alors que Franck avait un respect de la forme. Voilà, pour lui, il y avait quand même une chose qui était assez fondamentale, c'était la forme et ce qu'il appelait la modulation. On va pas rentrer trop dans la technique, mais bon, voilà, il avait des choses sur lesquelles il était assez intransigeant. Mais en même temps, il avait cette capacité pédagogique d'être à l'écoute des élèves, d'être à l'écoute de ce que les élèves avaient d'original à apporter, de ne pas être dogmatique, donc les laisser. Et il a ouvert énormément de portes. Le quintet qu'on va vous jouer donc, a été écrit sur la fin de sa vie. C'est une de ses œuvres maîtresses. Enfin, c'est vraiment quelque chose de magnifique. Alors pareil, on va vous jouer juste le dernier mouvement parce qu'on n'a pas le, voilà, on peut pas le faire en entier. Ça dure une demi-heure. Hein, c'est un petit peu long. Et vous allez voir, c'est encore un autre univers. Je parle un peu parce qu'après Ravel, c'est compliqué. C'est tellement différent. Donc il faut un peu oublier Ravel pour repartir avec. Mais c'est un, enfin pour moi, c'est vraiment un grand voyage, ce quintet. Et alors, voilà, venez avec nous.
Thank you.
sait se présenter tout seul individuellement.
C'est important.
Oh non, mais avec les noms de famille, peut-être.
Nathan Mirdel.
Clémence Leroux.
Nicolas Garrigue.
Laura Castagnaro.